Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur l'évangile de dimanche prochain, qui est la suite immédiate de l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier. Nous suivons le chapitre 6 de Saint Luc, les versets 27 à 38. Nous serons attentifs à comprendre cet amour des ennemis dont le Seigneur parle et le motif qui permet de le justifier. Mais commençons par lire le texte. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. » Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande dans les cieux, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Le premier point qui est à remarquer dans cet évangile est que nous pouvons avoir des ennemis. Si le Seigneur dit « aimez vos ennemis », ça signifie qu'il y a une réalité de personnes qui ne nous aiment pas, de personnes qui ne nous veulent pas de bien. Nous pouvons être confrontés avec de vrais ennemis. Leur inimitié n'est pas simplement une vue de l'esprit, une fausse perception que je me serais imaginée. Il y a une réalité d'ennemis autour de nos vies. Il y a donc une réelle lucidité. On n'est pas dans une idée où tout le monde serait tout gentil, tout le monde serait tout plaisant. Nous pouvons rencontrer des ennemis, ils sont réels. Le Seigneur Jésus liste ensuite une série d'actions qui ne sont pas du tout spontanées. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On aurait imaginé, au contraire, de les haïr en retour. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent instinctivement. On aurait eu envie de les maudire en retour. Priez pour ceux qui vous calomnient instinctivement. On aurait plutôt eu envie d'appeler la malédiction de Dieu sur eux. Le Seigneur manifeste là qu'on ne répond pas à l'iniquité avec l'iniquité. On ne répond pas au mal avec les armes du mal. Du bien, souhaiter du bien, prier. Telles sont les armes dont nous disposons. Et ce, alors même que des gens peuvent réellement nous haïr, nous maudire et nous calomnier. Il nous dit donc, ne vivez pas la réciprocité dans le mal. Mais il va plus loin encore, en disant à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Cela semble sortir de toute logique et de toute justice. Tu me frappes sur la joue instinctivement, je cacherai l'autre. Tu m'as pris mon manteau, je ne vais surtout pas te donner ma tunique. Si quelqu'un me demande, je vais examiner qui c'est, et si j'ai prêté mon bien à quelqu'un, ben je suis heureux et attentif à ce qu'il me le rende. Derrière cette attitude, il y a un double effet qui est recherché. Le premier, c'est un effet de brisure de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. le mal que tu m'as fait, je te l'appliquerai à toi aussi en retour. » Assurément, la loi du talion était déjà une limitation de la violence. Violence qui était décrite dans le livre de la Genèse au chapitre 4, avec Lamech, ce descendant de Caïn, qui disait à ses femmes, « Ada et Silla, entendez ma voix, femme de Lamech, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. » C'est que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. C'est une logique de surenchère de la violence. Peut-être en guise de dissuasion, mais c'est quand même une surenchère de la violence. Caïn 7 fois, Lamech sera vengé 77 fois. Donc, premier mouvement recherché, une brisure de la loi du talion. Remarquons que la loi du talion, si elle limitait la violence, amenait aussi simplement à rajouter un mal là où un autre était déjà. Tu m'as crevé un œil, je te crève un œil, peut-être que nous sommes quittes, mais voilà que, en fin de compte, nous sommes deux borgnes. Avant cela, il n'y en avait qu'un. Le deuxième élément est un élément d'exemplarité. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Cette démarche est très intéressante parce que c'est une démarche qui va transformer le lieu, qui prend l'initiative de vouloir transformer, d'apporter une énergie qui se distingue de ce qu'il y avait précédemment. On pouvait s'enfermer dans la logique de la violence, dans la vendetta permanente. Eh bien, on brise cela et on propose de nouvelles bases. Il y a une initiative qui propose de nouvelles bases, une nouvelle énergie. Je vais leur faire du bien, non pas au nom du bien qu'ils m'auront déjà fait, mais au nom du bien que je voudrais qu'ils me fassent. Je leur fais du bien, non pas au nom du bien qu'ils m'ont déjà fait au préalable, mais au nom du bien que je voudrais qu'ils me fassent. Une exemplarité donc que l'on espère porter un fruit dans le cœur de ceux qui recevront ce bien. Mais quelle est la raison, au nom de quoi allons-nous entrer dans cette démarche exemplaire? Au nom d'une reconnaissance qui va au-delà de ce que les pécheurs peuvent espérer. En effet, les pécheurs aiment ce qui les aime, les pécheurs font du bien à ceux qui leur en font, les pécheurs prêtent à ceux qui leur rendent en retour. L'entrée dans cette démarche exemplaire qui dépasse ce que feraient les pécheurs est associée à une grande récompense. Cette récompense est d'ailleurs d'abord un état. Vous serez les fils du Très-Haut. Vous serez comme votre Père. Ce comportement exemplaire, que l'on souhaite exemplaire, est calqué sur le comportement même de Dieu. En effet, il est bon pour les ingrats et les méchants, en ce sens qu'il fait briller le soleil et il fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Il est miséricordieux pour tout homme. Le Christ donnera sa vie pour racheter les péchés du monde, les péchés de tous les hommes, de toutes les époques. La mesure qui nous est donnée, l'exemple qui nous est donné, est donc surnaturel. C'est pas simplement donc une réaction naturelle, mais une réaction surnaturelle, puisqu'elle est celle-là même de Dieu. Il nous faut prendre la mesure de cela, parce que l'on pourrait croire sinon qu'il nous faut y arriver par notre seule volonté, par nos seules forces. Or, si c'est un élément surnaturel, ça veut dire que nous devons le recevoir de Dieu, ça veut dire que nous y aspirons, nous y ouvrons notre volonté, nous y ouvrons notre liberté, mais qu'il y a une action de Dieu qui doit se produire pour que nous recevions effectivement la force de vivre ainsi. Le Verbe du Père, le Fils du Père s'est fait chair, pour que nous vivions comme lui, pour que nous aimions en définitive comme lui, avec cette même puissance, avec cette même gratuité, qui va au-delà du mal commis précédemment, qui vit le bien, qui dispense le bien, pour que ceux qui le reçoivent le vivent à leur tour. L'épisode se termine en évoquant le fait que la mesure que nous utiliserons sera utilisée pour nous aussi, sous-entendu, Dieu l'utilisera aussi pour nous. Si nous nous montrons généreux, largement, eh bien Dieu aussi sera largement généreux pour nous. Soit directement, soit par l'entremise des autres. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être trois choses. La première, c'est la réalité du fait que nous puissions avoir des ennemis, qu'autour de nous se trouvent des gens qui ne nous veulent pas du bien, mais au contraire qui nous veulent du mal. La deuxième, c'est que le Seigneur nous invite à dépasser la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et nous invite à vivre une loi d'exemplarité dans la générosité, de vivre une générosité qui est appelée à être exemplaire. On ne répond pas au mal par le mal, mais on répond au mal par le bien, dans l'espérance justement que ce bien portera du fruit. Il en portera au moins sous le regard de Dieu. Cette exigence, c'est le troisième point, est calquée sur notre identité, nous qui sommes devenus fils du Père. Puisque nous sommes devenus fils du Père, nous sommes appelés à vivre avec sa même générosité. Cette générosité ne sera pas déçue. Il affirme « La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous ». Cette mesure de générosité, même si elle n'est pas vue par les hommes, est bien vue, mesurée, appréciée par Dieu. Nous n'aurons pas perdu ni notre temps, ni nos efforts. Je vous souhaite de bons échanges.